Merci et bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous n'avez pas trop chaud ou trop chaud. C'est vrai qu'il fait bien bon ici, ça sent déjà l'été, enfin c'est l'été d'ailleurs, mais ça sent les vacances. Certaines personnes sont absentes, peut-être en raison des vacances ou d'un week-end de cette saison. C'est le cas pour Fred et Laure qui sont à Montmelin pour le culte de la fête de l'été. Et puis peut-être d'autres personnes aussi. Je vous invite ce matin à une méditation sur une interrogation que je me suis posée à la lecture de la Bible et aussi au vu de certaines personnes au cours de mon ministère pastoral, mais pas seulement pastoral, je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous. La question est celle-ci, ou l'interrogation est celle-ci, comment se fait-il que certaines personnes qui ont marché pendant une longue période avec Dieu abandonnent, ou semblent abandonner le Seigneur, en tout cas abandonnent une pratique religieuse, même la foi semble se débarrasser de ce qui a été pour eux pourtant un moteur important de leur vie. Comment se fait-il que ces personnes ont décroché par rapport au Seigneur? Alors, j'ai retrouvé quelques textes, essentiellement dans le Nouveau Testament, à commencer par celui qui est inscrit sur le mur. Vous voyez, le système de lettres magnétiques permet de changer le verset aussi souvent que l'on veut. Et le verset de ce matin m'a été demandé, donc il est en rapport avec ce que je vais vous dire. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » C'est ce « jusqu'à la mort » qui a attiré mon attention. Alors, la situation de cette exhortation, chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a un temps de persécution. Et dans les temps de persécution, certaines personnes, pour éviter la persécution, peuvent renier ou en tout cas se mettre à l'écart d'une vie religieuse ou de confesser le Seigneur. Mais le Seigneur dit « Sois fidèle jusqu'à la mort », c'est-à-dire jusqu'au bout, et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, c'est bien sûr en rapport avec la vie éternelle dans le règne de notre Dieu. Un autre texte aussi qui m'est venu à l'esprit se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, un chapitre qui parle de la fin des temps, de la persécution aussi des chrétiens, et qui dit, c'est Jésus qui parle, et qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de quoi? La fin de l'épreuve. Peut-être aussi la fin de sa vie, si l'épreuve dure jusqu'à la fin de la vie. Celui-là sera sauvé. Il y a d'autres textes aussi que j'aimerais citer. Ils sont abondants. Cette parabole de Jésus, par exemple, qu'on trouve dans Luc chapitre 12, versets 35 à 40. « Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Voilà. Hein. Et puis à la fin, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, il faut toujours être prêt, parce que le Seigneur peut revenir. Une exhortation donc à être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Et l'exemple que j'ai vu dans la Bible et que j'aimerais méditer avec vous se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 14. Alors, le livre des Chroniques reprend le livre des Rois sous un autre éclairage. Le livre des Rois parle des rois d'Israël, puisque le pays d'Israël a été divisé en deux, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le livre des Chroniques parle surtout ou essentiellement des rois qui se trouvent à Jérusalem, donc l'Israël du Sud, le pays de Juda. Et dans la liste de ces rois, il y en a beaucoup qui ne marchent pas selon ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Mais il y en a quelques-uns qui, eux, font ce qui est bien aux yeux du Seigneur, qui sont fidèles au Seigneur. Et au chapitre 14 du deuxième livre des Chroniques, nous avons le roi Asa. Alors c'est facile à retenir, hein, Asa. J'ai envie de dire, vas-y Asa, hein. Le roi Asa. Il a régné sur le petit royaume de Juda, donc de 912 à 871 avant Jésus-Christ. Hein, c'était quand même il y a un bon moment. Et il est l'arrière-petit-fils du roi Salomon. Salomon qui a bien commencé avec Dieu, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, et qui a terminé lamentablement. Eh bien, Asa est son arrière-petit-fils. L'histoire de ce roi, Asa, est intéressante. En ce sens que l'auteur du livre des Chroniques, qu'on appelle le chroniste, s'attarde sur trois chapitres, 14, 15 et 16, à nous décrire la longue fidélité envers Dieu de ce roi, puis son impiété, survenue 5 ans avant sa mort. Voilà un roi, nous dit le livre des Chroniques, qui a régné pendant 41 ans. Eh bien, pendant 36 ans, il était fidèle au Seigneur, et les 5 dernières années de sa vie, il a été infidèle. Comment cela peut-il être? Comment cela est-il possible? Qu'est-ce qui s'est passé chez ce roi fidèle? On pourrait presque dire, mais pourquoi n'est-il pas mort avant? Au moins, il aurait peut-être laissé un meilleur témoignage, mais il a mieux valu qu'il vive, sans doute. Enfin, telle n'est pas notre question ce matin. Et le chroniste, je crois, en nous rappelant cette histoire de la fidélité, longue fidélité de ce roi et de son infidélité, à la fin de sa vie, veut nous mettre en garde. Comme le Nouveau Testament aussi veut nous mettre en garde, par exemple avec cette parole de l'apôtre Paul, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Quand je regarde à moi-même, à ma propre foi, à ma vie avec le Seigneur, je ne peux pas m'imaginer que je puisse l'abandonner, que je puisse m'écarter de sa voix. Mais que celui qui est debout prenne garde de tomber. Personne n'est à l'abri d'une chute ou d'un moment, ou peut-être plus ou moins long, hein, d'une période de sa vie où le Seigneur ne serait pas honoré. Et nous avons dans notre tête, dans notre esprit, l'image, le témoignage de bien des gens qui nous ont étonnés par une vie au service du Seigneur, et un beau jour, on a l'impression que tout cela ne comptait plus. Ils ont eu une vie tout à fait différente. Alors il nous est dit, au chapitre 14, ou même déjà au verset 23 du chapitre 13, Abia, c'est donc le père d'Asa, se coucha avec ses pères, ça c'est une formule un peu rituelle, hein, qu'on trouve dans le livre des rois pour dire qu'il est mort. Hein, voilà, il se coucha avec ses pères et on l'ensevelit dans la cité de David, hein, à Jérusalem, hein, c'est là où étaient ensevelis les rois d'Israël. Son fils, Asa, régna à sa place. De son temps, le pays fut tranquille pendant 10 ans. Voilà déjà une notion, une remarque positive. Voilà. Hein? Pendant le règne d'Asa, le pays fut tranquille pendant 10 ans, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et nous continuons notre lecture avec le chapitre 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il supprimera les autels du culte étranger et les hauts lieux. Voilà, donc, voilà un roi qui veut marcher avec le Seigneur et qui a décidé de mettre Dieu à l'honneur dans son pays. Alors, il commence par détruire les lieux de l'idolâtrie. Alors, on peut noter qu'au verset 1, Dieu est appelé son Dieu. Puis ensuite, au verset 3, il dit à Juda, donc son pays, de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères. Et puis ensuite, au verset 6, il dit à Juda, donc son pays, Bâtissons ces villes, entourons-les de murailles, de tours et de portes avec des barres. Le pays est encore sous nos yeux, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, le Dieu de mes pères, et l'Éternel, notre Dieu. Voilà comment est introduite la vie de ce roi Asa. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu personnellement et qui honorait Dieu en tant que roi, le Dieu qui avait qui était bien intervenu dans le pays d'Israël autrefois et qui voulait être le Dieu de son pays. Asa a donc décidé de marcher avec Dieu. Alors c'est formidable et cela change par rapport aux autres rois que nous avons dans cette histoire des rois d'Israël et de Juda. Mais tôt ou tard, comme c'est le cas aussi pour chacun d'entre nous, les difficultés arrivent, peut-être de façon insidieuse. Et comment réagissons-nous face à différentes situations ? Comment réagissons-nous par rapport à Dieu dans ces différentes situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver ? Eh bien, au verset 8, tout de suite, nous avons ici une épreuve, une difficulté. Zéra, le Couchite, alors les Couchites c'était un peu les Éthiopiens, hein, les Égyptiens et Éthiopiens de cette époque, sortit contre eux avec une armée de 1000 milliers d'hommes et 300 chars, etc., etc. Voilà donc une menace militaire, hein, un peuple de soldats énorme par rapport à la petite armée de ce petit pays de Juda. Au verset 10, Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Il dit, « Éternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. » Voilà un verset à souligner dans notre Bible. Hein ? L'Éternel peut tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible, et lui il était faible, et il s'appuyait sur son Dieu. Alors on pourrait se dire, ben c'était par intérêt, il n'avait pas tellement le choix devant cette multitude. Mais je crois que quand même, et on le verra plus tard, c'était non seulement un acte de foi, mais une attitude juste, correcte, par rapport à Dieu. Dans l'épreuve, il fait appel à Dieu. Dans la difficulté, il s'adresse à Dieu. C'est sur lui, sur Dieu, qu'il s'appuie. Et ça, c'est un point positif, un point fort que nous pouvons aussi prendre comme exemple dans notre vie. Les problèmes se règlent d'abord par la prière, par la relation avec Dieu. Inutile de faire de longues prières, comme c'est le cas ici. Mais c'est un appel au secours, au Seigneur. Hein ? Et cette parole d'encouragement est à saisir aussi pour chacun d'entre nous. Et Dieu a répondu à sa prière. Et ce fut la déroute dans le camp ennemi. Et c'est alors que nous avons des paroles magnifiques données par un prophète, un homme de Dieu qui était là et qui montrait à ce roi qui était Dieu et qui l'encourageait à continuer à marcher avec Dieu. Au chapitre 15 et au verset 2, ce prophète, dit au roi Asa, « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant de longs jours, et là il relate un petit peu l'histoire de son peuple, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont revenus à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont recherché et il s'est laissé trouver par eux. Encore des paroles magnifiques qui nous encouragent à la fidélité à notre Dieu. Et je crois que quand on est fidèle au Seigneur, le Seigneur est fidèle aussi et il honore notre fidélité. Alors, bien sûr, après une telle manifestation de la puissance de Dieu pour ce petit roi Asa face à l'importance de l'armée ennemie, On pourrait dire, mais il est regonflé à bloc, hein? Il va continuer à marcher avec Dieu, et c'est effectivement le cas au chapitre 15 où il fait un bon ménage, un bon nettoyage dans la vie de ses concitoyens. Il veut qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie et il continue à détruire les hauts lieux, ce qui correspondait au lieu d'idolâtrie et qui, bien sûr, ne plaisait pas à Dieu. Et le peuple, chapitre 15, verset 12, il nous est dit ceci au sujet du peuple. Ils prirent, donc chapitre 15, verset 12, ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Il n'est plus tout seul. Le peuple est avec lui. Le peuple a vu le miracle de la victoire. Et le peuple s'engage à marcher avec Dieu. Que valent nos engagements devant Dieu? Ils devraient avoir une importance capitale. Quand on s'engage, que ce soit par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes, il est important de rester fidèle à son engagement. Mais là encore, bien des exemples nous montrent que même les engagements les plus sérieux, les plus profonds, le mariage par exemple, le baptême, l'engagement pour Dieu, ne sont pas toujours suivis de fidélité. Le peuple ici s'engage à marcher avec Dieu. Au verset 15, nous avons cette parole. Tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, hein, personne ne les a forcés. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le Seigneur leur donne le repos, ce qui est bien précieux pour un pays, et nous en savons aussi quelque chose. Nous préférons tous, du moins je l'espère pour vous, être dans un pays en paix plutôt que dans un pays en guerre. Asa va même jusqu'à destituer sa propre mère de sa régence parce qu'elle avait fait une idole, et la Bible du Semeur traduit une idole obscène. Il va la destituer, sa propre mère. On constate donc chez ce roi un véritable désir de suivre le Seigneur, on pourrait dire, jusqu'au bout. Mais les choses vont se gâter. Au chapitre 15 et au verset 18, il met dans le temple, dans la maison de Dieu, ce qu'avait consacré son père, ce qu'il avait consacré lui-même, de l'argent, de l'or et des objets divers. Très bien, autrement dit, il met son argent dans la banque de Jérusalem en lieu sûr. Probablement que ce lieu était protégé par des gardes, et également, sans doute, qu'on n'osait pas s'attaquer à la maison du Seigneur pour aller voler la richesse de ce roi. Très bien. Mais le problème, c'est que ce roi, à la prochaine épreuve, va s'appuyer sur sa richesse au lieu de s'appuyer sur Dieu. C'est ce que nous montre le chapitre 16. De nouveau, verset 1er, il y a une guerre en perspective, une attaque en perspective, la 36e année de son règne. Le roi d'Israël, du grand royaume du nord, monte ou descend contre le royaume du sud. Et la première pensée d'Asa, c'est de sortir l'argent et l'or des trésors, je lis le verset 2, de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et de l'envoyer ou de le promettre au roi de l'immense empire, à cette époque, de Syrie, pour demander son aide militaire. Il avait de l'argent à sa disposition pour régler son problème. Alors pourquoi chercher plus loin ? Cet argent, il ne l'avait pas volé. Bon, c'était les impôts de son peuple, mais enfin, tout le monde paie des impôts. Et c'était un argument de poids, hein, offrir de l'or et de l'argent au roi de Syrie pour l'amener de son côté et ainsi pour décourager le roi d'Israël, du royaume du Nord, de l'attaquer. En général, c'est l'argent qui est la solution aux situations les plus difficiles. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre, hein ? Et puis, Dieu lui avait donné cet argent, pourquoi ne pas l'utiliser ? Asa ne s'est pas adressé au Seigneur. Asa a réglé son problème tout seul. Asa n'a pas tenu compte de la parole de Dieu. Il a négligé Dieu dans cette affaire. Il a agi comme quelqu'un, je dirais, qui ne connaît pas Dieu, comme quelqu'un du monde, hein, pour reprendre une expression que nous utilisons parfois, quelqu'un qui ne sait rien de Dieu. Et il se sentait suffisamment fort, avec ses réserves, pour faire face tout seul à son problème. C'est ce que font nos gouvernements. Lors de la dernière crise, le gouvernement a donné des milliards d'euros pour renflouer les banques de leurs pertes colossales. L'argent règle énormément de problèmes. Hein. Quand nous sommes malades, si nous avons de l'argent, nous pouvons aller voir les meilleurs médecins, aller dans les meilleures cliniques, avoir donc de meilleures chances d'être mieux soignés. Et dans certains pays, c'est tragique, c'est beaucoup plus difficile que dans notre pays. La première réaction d'Asa, c'est de compter sur son argent pour régler son problème. En fait, il avait oublié que son peuple ne lui appartenait pas, qu'il appartenait au Seigneur. Comme nous, souvent, nous oublions, en tant que chrétiens, je m'adresse ici à des chrétiens, nous oublions que nous ne nous appartenons pas ou plus, mais que nous appartenons au Seigneur. Et son peuple appartenait à l'Éternel, comme notre vie devrait d'abord lui appartenir. Alors, il y avait des prophètes en Juda, c'est-à-dire des hommes de Dieu. Il y en a un qui s'appelle Hanani, qu'on appelle Hanani le voyant, le prophète, qui va auprès d'Asa et qui lui dit, chapitre 16, verset 7, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains, etc. Hein » Et il est dit à son sujet que, en fait, Dieu lui reproche de ne pas s'être appuyé sur Dieu. Il croyait être gagnant, avoir réglé son problème. En fait, il ne l'était qu'à moitié. Ou même, il était perdant parce qu'il ne s'est pas appuyé sur le Seigneur. Et Asa a une attitude, je pense, d'orgueil. Il ne comprend pas qu'il a besoin de se repentir, de demander pardon à Dieu, de reconnaître qu'il a mal agi, qu'il n'a pas tenu compte du Seigneur, et au lieu de se rapprocher du Seigneur, et c'est ce que font parfois des gens qui laissent tomber le Seigneur, et comme ils se barricadent, hein, et Asa va mettre ce prophète en prison, verset 10, Asa fut irrité contre le voyant. Nous n'aimons pas quand on nous dit la vérité biblique, évangélique. Hein, et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette affaire. Comment ça, j'ai réglé mon problème avec l'argent dont je disposais je n'ai plus maintenant de menaces militaires, le problème est réglé, qu'est-ce que tu viens m'ennuyer avec cette question de fidélité à Dieu? Je suis assez grand pour agir comme je veux. Eh bien Dieu ne comprend pas la chose de cette façon. Asa aurait dû se repentir de son péché, mais il ne l'a pas fait. Et le reste de sa vie, les 6 dernières années de sa vie, c'est une obstination à vivre loin du Seigneur. Et on voit que, au verset 12, la 39e année de son règne, c'est un roi malade qui va peut-être même mourir de sa maladie. Il eut les pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne rechercha pas l'Éternel, mais consulta les médecins. Alors, il n'est pas interdit, loin de là, de consulter les médecins aujourd'hui, bien entendu. Hein ? Rechercher l'Éternel ne dispense pas de consulter les médecins. Mais on voit bien ici dans ce texte qu'en fait, il ne va chercher qu'une aide humaine et il refuse de s'adresser au Seigneur. Et il meurt, au verset 13, il se coucha avec ses pères, voilà la, l'expression un peu consacrée à ces rois qui meurent. Il mourut la 41e année de son règne. On l'ensevelit dans l'un des tombeaux qu'ils étaient creusés dans la cité de David, et au lieu d'avoir un peu l'expression un peu habituelle, il fut enseveli dans la cité de David, hein, ce qu'on retrouve assez fréquemment. Il nous est dit, on le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla pour lui une quantité très considérable. Ce n'est plus les rois humbles qui se confient à Dieu ou qui meurent de façon habituelle. Pour lui, il y a là comme une pratique païenne hein, qui se dégage. De ces funérailles. Voilà donc un roi qui a vécu avec Dieu pendant une grande partie de son règne et qui à la fin s'est détourné de Dieu. Pourquoi ? Nous avons essayé d'en dégager au moins un élément de réponse, hein, ne pas compter sur Dieu, mais compter uniquement sur lui-même. Je remarque quand même que quand il est fait état de ce roi, Asa, même dans le livre des Chroniques, malgré ce qui nous a été relaté, il nous est dit que c'était un roi qui a marché de façon droite avec le Seigneur. De Chroniques, chapitre 20, verset 32, il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. De même, au chapitre 15 et au verset 17, les hauts lieux ne disparurent pas d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Alors c'est curieux parce que quelques versets plus tard, on a cette période de 6 ans où il ne marche pas en entier à l'Éternel. Je crois qu'il y a ici quelque chose à méditer. Dieu tient sans doute compte de ce qui a été positif dans sa vie et ne tient pas compte, enfin, d'une certaine façon, ça nous est relaté quand même, mais voilà une personne qui a vécu, qui a eu un règne de 41 ans, l'accent n'est pas mis sur les 6 dernières années de sa vie, l'accent est mis sur les autres, plus nombreuses années de sa vie. Alors je termine par juste quelques exhortations pour que nous soyons fidèles jusqu'à la mort. Restez à l'écoute de Dieu, c'est important. La voix de la raison, de la sagesse humaine n'est pas toujours bonne conseillère. Il est important en tant qu'enfant de Dieu de rechercher ce que Dieu pense, même si nous sommes assez grands pour penser tout seuls. Et seul un contact permanent avec Dieu, par la prière et la lecture de sa parole, nous garderons à son contact. Et puis nous avons tous connu des gens qui ont marché avec le Seigneur, puis qui lui ont tourné le dos. Il y a là sans doute un mystère que nous ne pouvons pas comprendre. Retenons aussi de leur vie ce qui est positif et non le négatif. De même pour le roi Salomon, le livre des Chroniques ne souligne que la grandeur de ce roi Salomon et par la même occasion la grandeur de Dieu. Méfions-nous de nos richesses matérielles, intellectuelles ou même spirituelles. Elles peuvent nous rendre autosuffisants, nous faire croire que nous pouvons nous passer du Seigneur dans notre façon de vivre notre vie chrétienne. Nous avons besoin de Dieu, d'être à l'écoute de Dieu et de suivre le Seigneur. Le bonheur, bien sûr, se trouve à son contact. Je terminerai par une parole de l'apôtre Paul dans le deuxième livre de Timothée. Il dit ceci, cette parole est certaine, donc il l'appuie. Si nous sommes morts avec lui, avec le Christ, avec le Seigneur, nous vivrons aussi avec lui. Voilà une parole certaine. Si nous persévérons, là encore, cette persévérance, aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Moi, je trouve intéressant cette différence entre renier le Seigneur et lui être infidèle. Si nous renions, le Seigneur nous reniera. Mais si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ce qu'il a commencé dans notre cœur, je pense que cela compte aux yeux de Dieu, ne peut pas être comme ça effacé d'un coup de chiffon, d'un coup de trait. Voilà une parole à méditer. Une parole à méditer. Alors, renier le Seigneur, ça va jusqu'à ne plus reconnaître tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Lui être infidèle, c'est sans doute autre chose. Mais peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une autre prédication. Merci de votre attention par cette chaleur considérable. Vous êtes courageux. Merci beaucoup.